Europe Midi, Christophe Lamarre.
Bonjour, c'est Europe Midi, bonjour à tous. La France renforce ses restrictions à l'encontre des voyageurs qui souhaitent entrer sur son territoire. S'ils ne sont pas complètement vaccinés, il faudra produire un test anti-Covid de moins de 24 heures. L'épidémie qui flambe dans les Pyrénées-Orientales, le préfet ordonne la fermeture des bars et des restaurants à partir de 23 heures demain et jusqu'au 2 août. Dans Europe Midi également, un pass qui ne passe pas, manifestation un peu partout en France contre le pass sanitaire. Nouveau week-end de grand départ sur les routes, journée classée rouge, et vous êtes déjà nombreux sur les principaux axes, près de 1000 km de bouchons cumulés. Le nord de l'Europe, face à la tragédie, les inondations ont fait plus de 150 morts, dont 133 rien qu'en Allemagne, où l'on parle déjà d'une catastrophe jamais vue dans l'histoire récente. Rues et avenues submergées par les flots, maisons effondrées, glissements de terrain, deux régions sont particulièrement touchées. Le Festival de Cannes avec le palmarès ce soir, émission spéciale sur Europe 1 et en simultané sur Canal+, dès 19h15. Et puis invité d'Europe Midi, François Gémen, spécialiste du climat et membre du GIEC. Ces intempéries et inondations spectaculaires en Allemagne et en Belgique sont-elles l'œuvre du seul réchauffement climatique? Y a-t-il d'autres éléments de réponse? On lui posera la question. La météo, tient justement, Laurent Cabrol, le retour du beau temps sur une partie de la France peut-être?
C'est le beau temps, il reviendra dès demain. Et nous aurons, enfin demain, dès aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça s'arrange quand même largement sur les régions de l'Est, et demain le soleil sera présent quasiment partout.
Merci Laurent.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Les habitants des Pyrénées-Orientales n'auront pas goûté longtemps ce semblant de retour à une vie normale. Face à la remontée des cas de contamination en variant Delta, les autorités resserrent la vis. Le port du masque était déjà redevenu obligatoire à l'extérieur, mais cela va s'accompagner d'autres mesures, Nicolas Feldman.
Oui, puisqu'à compter de demain soir, les bars, les restaurants, les épiceries de nuit, les établissements de plage, tous ces lieux devront fermer leurs portes à 23h dans le département. Voici l'illustration des mesures de freinage voulues par Emmanuel Macron quand le taux d'incidence est trop élevé dans un territoire. Dans les Pyrénées-Orientales, celui-ci a été multiplié par 6 en une semaine. Et le gouvernement veut éviter une situation similaire à l'ensemble du pays. C'est pour cela que de nouvelles restrictions aux frontières ont été annoncées ce matin. Dès demain soir minuit, les voyageurs européens non vaccinés qui souhaitent entrer en France devront présenter un test négatif de moins de 24 heures. Cela concerne par exemple les personnes en provenance de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Enfin, autre évolution, sachez que le gouvernement considère désormais que vous êtes complètement vacciné 7 jours après l'injection d'une seconde dose. Le délai était jusqu'ici de 14 jours.
Explication Nicolas Feldman. Et dans les Pyrénées-Orientales, comme dans le reste du pays d'ailleurs, il faudra s'habituer à cette formule. Papier d'identité et test anti-Covid, s'il vous plaît. Le pass sanitaire sera exigible dès mercredi prochain dans les parcs d'attractions et tous les lieux de culture rassemblant plus de 50 personnes. Le 1er août, ce sera au tour des bars, des cafés, des restaurants de l'imposer. Une atteinte aux libertés d'aller et venir pour ses opposants. Plusieurs dizaines de manifestations sont prévues dans toute la France, dont deux à Paris. Quel est le profil des personnes qui seront à ces manifestations? Élément de réponse avec Alexandra Sirgan.
Déjà mobilisées mercredi, Marie et Sophie seront à nouveau dans la rue cet après-midi. Ces deux cousines, toutes deux masquées, manifestent contre ce qu'elles appellent une obligation déguisée, mais elles refusent l'étiquette de complotistes.
C'est facile de dire vous êtes complotistes, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais à un moment donné, quand on réfléchit bien et qu'on se pose des questions, on se dit « attends ». Depuis le début, le gouvernement en fait nous a menti. Le masque ne sert à rien. Tout d'un coup, le masque, en fait, on doit le mettre, il devient obligatoire. On n'a pas besoin de se faire confiner et en finalité, on nous confine. À un moment donné, bah, à force de nous avoir mis des mensonges, bah, c'est de leur faute en fait qu'aujourd'hui on se pose des questions.
Les deux trentenaires rejettent également l'étiquette anti-vaccin. La raison de leur refus de se faire vacciner, le manque de recul.
Le vaccin aujourd'hui qu'on nous propose, il est encore en phase expérimentale. Moi, je me suis fait vacciner tout au long de ma vie, j'ai pas de problème avec ça, mais aujourd'hui, on me force à faire quelque chose que je ne veux pas.
Et passe sanitaire ou non, elle l'assure, le vaccin, elles ne le feront pas.
On va résister et puis s'il ne faut pas aller, il faut sacrifier encore 2 ans, pas de vacances, 2 ans, pas de restaurant, et ben on le fera, c'est pas grave.
Gilets jaunes et soignants ont également prévu de se rendre à la manifestation. Selon la Fondation Jean Jaurès, 10% de la population française refuse de se faire vacciner contre le Covid.
Alexandra Sirgan, le ministre de l'Intérieur, qui demande au préfet de renforcer la sécurité des élus. Certains parlementaires ont reçu des menaces par message interposé. Puis j'ajoute qu'en Isère, un centre de vaccination a été vandalisé à Lens-en-Vercors. Le bâtiment est totalement hors d'usage. L'enquête a été confiée aux gendarmes. Les images sont désolantes. On peut d'ailleurs parler de désolation dans certaines villes. C'est une catastrophe sans précédent qui vient de frapper et frappe encore le Nord. ouest de l'Europe. Belgique, Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, frappés par des pluies diluviennes. Deux pays sont particulièrement touchés, la Belgique et l'Allemagne, donc, où l'on dénombre déjà 133 morts, avec deux régions très sinistrées. Mélina Fachin, vous êtes à Sinzing, tout près d'Arweiler, l'une des villes les plus sinistrées, et la solidarité s'organise sur place.
Oui, une douzaine de personnes ont été tuées ici à Sinzig, notamment des personnes handicapées qui se sont retrouvées coincées dans leur institut. Une cinquantaine de maisons ont été détruites. Face à la catastrophe et à l'urgence, tout le monde s'organise, essaye d'apporter son aide comme il le peut. Marie ramène des pelles, des brouettes du village voisin. La maison de son frère a été complètement ravagée.
L'eau est arrivée à 10 cm du plafond. Tous les meubles se sont retrouvés dans les autres pièces de la maison. C'est très important d'avoir de l'eau propre, de la nourriture, de sentir que les gens sont solidaires.
La mairie aussi, évidemment, travaille d'arrache-pied. Roland, un adjoint, coordonne toutes les opérations de nettoyage de la ville.
On s'assure que les gens venus apporter leur aide ont bien à manger et à boire. On croule sous le nombre de personnes qui veulent aider. C'est une très bonne chose. Et grâce à leur force, eh bien, on est en bonne voie pour nettoyer la ville de Sinzig.
Évidemment, les pompiers, la police sont toujours sur place, de plus en plus nombreux. Mais grâce à cette solidarité entre voisins, ils peuvent se concentrer sur les tâches urgentes, notamment les opérations de recherche. Beaucoup de personnes dans la région sont toujours portées disparues.
Mélanie Fachin, envoyée spéciale d'Europe 1 en Allemagne. En Belgique, le bilan provisoire s'établit à 24 morts. À Marseille, 3 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble la nuit dernière. L'enquête ne fait que commencer. Mais Yasmina Katou, le bâtiment était réputé pour sa vétusté et en partie squatté.
Oui, le bâtiment était en fait voué à la destruction dans le cadre d'une rénovation urbaine au nord-ouest de Marseille. Mais sur 147 logements, 97 étaient squattés selon le bailleur 13 Habitat. Impossible donc de détruire. 14 familles vivaient également dans l'immeuble en attente de relogement. Le feu s'est donc déclaré dans les parties communes de l'immeuble vers 5 heures ce matin. Selon le bailleur, un problème électrique aurait causé le départ de l'incendie. Des montages électriques défaillants étaient vraisemblablement faits par les squatteurs. Alors pour échapper aux flammes, 4 personnes se sont défenestrées. Trois d'entre elles sont décédées. On dénombre également 2 autres personnes grièvement blessées, 8 intoxiquées. Aucun détail n'a été donné sur l'identité des 3 victimes. La ville de Marseille va accueillir une partie des habitants dans des gymnases. 12 familles seront relogées à l'hôtel par le bailleur dans l'attente de l'attribution d'un appartement.
Yasmina Katou.
Europe Midi, Christophe Lamar.
Bison futé avait vu rouge, eh bien, il ne s'est pas trompé. Près de 1000 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Il faut donc s'armer de patience et ses vacanciers en voiture n'en manquent pas. Reportage dans le Var, Frédéric Michel.
Et dernier arrêt pour ces deux copines lyonnaises sur l'aire des Adrets de l'Estérel. On est juste après le péage de Fréjus avant de basculer sur Cannes et les Alpes-Maritimes. Déjà 30 degrés au thermomètre et un ciel tout bleu. Les vacances peuvent commencer pour Charlène et Névressa.
Dernier petit stop, on ravitaille et on y va.
On arrive bientôt, donc c'est cool, on a bien roulé en plus, on ne s'attendait pas à ça. Parce qu'ils annonçaient vraiment rouge ou noir sur les routes.
Les vacances peuvent commencer maintenant, ça y est.
Pause rafraîchissement pour cette famille toulousaine attendue en Corse ce soir et qui n'est qu'à la moitié du trajet.
On est parti à 5h30 de Toulouse, puis ça roule plutôt bien. Les enfants sont impatients et les parents aussi là, d'arriver.
Ça vous a paru long?
Ouais, ça va.
Pour vous non, parce que vous avez dormi.
On a dormi.
Mais moi, c'était un peu ennuyant.
En direction de la Méditerranée, le trafic devrait encore s'intensifier cet après-midi. Il y a les heureux vacanciers et tous ceux qui sont de retour.
C'est la route de la fin des vacances. Enfin, pas pour nous, parce que nous, il nous reste une semaine. Mais là, on ramène notre fille à son domicile à Nice.
Déçu?
Non, pas du tout. J'ai pu profiter de mes parents, donc toujours très bien les vacances.
Alors, si vous avez encore de la route avant d'arriver sur votre lieu de vacances, pensez à vous arrêter. Le bon conseil, une pause toutes les 2 heures.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le sud-est de la France. Quelle est la cause du décès d'Adama Traoré? 5 ans après, la justice ordonne un complément d'expertise médicale. De nouveaux témoignages permettraient d'expliquer les raisons de la mort de ce jeune homme à l'issue de son interpellation. Ses proches appellent à un nouveau rassemblement aujourd'hui à Persan-Beaumont, en région parisienne. Assa Traoré, figure de proue du combat de la famille, ne veut pas qu'on oublie son petit frère.
5 ans de lutte, 5 ans où continuons à demander cette vérité, cette justice et surtout la mise en examen des gendarmes et qu'ils puissent répondre à nos questions parce que ce sont nous qui avons des questions à poser et à savoir la vérité. Aujourd'hui, oui, c'est un symbole contre les violences policières, la discrimination, le racisme et c'est un combat qu'on portera aussi loin qu'on peut avec son nom pour toutes les personnes qui sont encore vivantes. Parce que sa vie, elle lui comptait. Mon frère est mort le jour de ses 24 ans. Et il avait mis un Bermuda, une chemise à fleurs, et son bob, et son vélo. Ça, c'était Adama Traoré, mon petit frère. Et 5 ans après, le combat grandit. Les soutiens sont de plus en plus nombreux. Et ça, c'est important.
Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, au micro de Marion Dubreuil. Le Tour de France avec l'avant-dernière étape entre Libourne et Saint-Émilion contre la montre de 30 km 800. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Tadej Pogacar. Et puis la Formule 1, Lewis Hamilton a signé la pole lors des qualifications du Grand Prix de Silverstone, mais les positions ne sont pas figées puisqu'une nouvelle épreuve pourrait modifier la grille de départ. Cette nouvelle épreuve, ça s'appelle le sprint, Julien Froment.
Oui, c'est une révolution que va vivre le monde de la Formule 1 ce week-end. Habitué au triptyque essai libre le vendredi, qualification le samedi et course le dimanche, un format immuable depuis la création des monoplaces il y a 71 ans, eh bien, désormais, il faut y ajouter le sprint, sorte de course dans la course. Alors le week-end d'un pilote de F1 se décomposera de la manière suivante. Vendredi, essai libre et qualification. Le samedi, c'est le classement des qualifications qui établira la grille de départ du sprint, une course de 100 km. À l'issue de ces 100 km, le premier du sprint partira en pole position le lendemain lors du Grand Prix, le deuxième en deuxième position et ainsi de suite. Le but de ce sprint est d'offrir un week-end plus rythmé avec plus de spectacles et pourquoi pas d'attirer un nouveau public. Deux autres Grands Prix auront également droit cette saison au sprint. Malgré les doutes de certains pilotes, c'est le cas notamment du septuple champion du monde Lewis Hamilton, eh bien, ce nouveau format pourrait être étendu l'an prochain en cas de succès.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1, la Formule 1 tient qui a parfois donné de beau moment de cinéma. Cannes refermera ses portes ce soir, clôture du festival avec la Palme d'Or à la clé, moment toujours très attendu. Et juste après la cérémonie, la projection en avant-première du nouveau OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. C'est le titre sorti le 4 août, comédie évidemment très attendue, 12 ans après le dernier film de l'espion français incarné par Jean Dujardin. Et figurez-vous que Mathieu Charrier l'a vu pour nous.
Josie.
Oui, patron.
Appelez-moi 117.
12 ans après sa mission à Rio de Janeiro, Hubert Bonisseur de la Batte est de retour. Nous sommes dans les années 80 et il est chargé d'aider un dictateur africain, le président Mamba, à éteindre la rébellion communiste.
Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien.
Très bonne analyse, Hubert.
Mais il y a un hic pour OSS 117. Cette fois, il va devoir faire équipe avec le jeune OSS 1001, campé par Pierre Ninet.
Vous savez très bien que j'opère toujours en solo.
Alors, on est dans l'ambiance de l'époque, brushing, pas de def, hélico. On pense au film de Philippe de Broca, notamment. Mais OSS voit bien que le monde change et que sa parole est moins libre. Un effet de notre époque, peut-être. Écoutez Jean Dujardin.
Je pense qu'on peut dire beaucoup de choses par la comédie. Et OSS est un moyen aussi de passer par cette époque pour dire des choses aujourd'hui. Là, l'idée, c'était aussi quand même d'abîmer le jouet, en gardant quand même sa superbe, mais de le confronter quand même à son âge, à la sexualité, au temps qui passe.
Car OSS séduit moins les femmes, il est moins efficace au lit. Autant d'astuces pour renouveler cette franchise et parler de notre époque en s'inscrivant dans la continuité des précédents films de la désormais trilogie. Il va d'ailleurs être intéressant de voir ce soir les réactions du président du jury devant cet humour, Spike Lee, très engagé pour la cause des Noirs et Afro-Américains. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
Mathieu Charrier, le spécialiste cinéma de Europe 1. La cérémonie de clôture du Festival de Cannes dès ce soir 19h15 sur Europe 1 et en simultané sur Canal+. Il doit sans doute faire très beau à Cannes, mais sur le reste de la France, quel temps va-t-il faire? Eh bien, on voit ça tout de suite.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
Alors Laurent Cabrol, que dit la météo?
Bah Cannes, figurez-vous qu'hier il pleuvait.
Bah voilà.
Il y avait de l'orage sur Cannes hier. Mais aujourd'hui, donc le temps est rétabli, il fera beau partout, avec encore pas mal d'humidité dans les régions de l'Est. Mais demain sera une journée vraiment ensoleillée partout, avec sur les côtes méditerranéennes encore du vent, 70 km heure. Mais partout ailleurs, après quelques brumes matinales, eh bien, le soleil s'imposera. Et les températures vont encore grimper un tout petit peu. Ce sont des températures qui sont chaudes, mais qui sont quand même même assez agréable, entre 22 et 32 degrés pour demain sur la plupart des régions. Vous voyez que nous sommes dans la norme de ce que nous devrions vivre à cette époque de l'année, avec ce vent qui vient du nord, du nord-ouest et parfois de l'ouest. Ce sont des vents qui sont encore frais, et la chaleur viendra lorsqu'ils vont tourner au sud. Et là, ce sera dans les jours qui viennent où nous aurons des vents de sud, et donc des vents maghrébins ou des vents espagnols qui vont vraiment réchauffer l'atmosphère, et nous aurons vraiment très chaud jusqu'à vendredi. Ensuite, ça pourrait tourner à l'orage.
On va patienter jusque-là. Merci Laurent Cabrol. Dans un instant, invité d'Europe Midi, François Gemène, spécialiste du climat et membre du GIEC. On va bien sûr revenir sur les intempéries qui frappent le nord-ouest de l'Europe. A tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Christophe Lamarre.
Bonjour François Gemène.
Bonjour.
Vous êtes membre du GIEC, un chercheur à l'Université de Liège et spécialiste des flux migratoires. Et justement, on va s'arrêter un instant, si vous le voulez bien, sur ce qui se passe en Belgique et plus globalement dans le nord-ouest de l'Europe. Mais étant évidemment à Liège, j'imagine que ce qui se passe dans cette ville vous touche particulièrement.
Bien sûr, d'autant plus que ça fait 15 ans que je mène des recherches pour documenter les personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles et d'événements extrêmes. Et donc, j'ai travaillé sur l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud et du Sud-Est. Et c'est évidemment un sentiment très particulier que de se rendre compte que la ville dont on est originaire est en train de devenir un cas d'étude pour de futures recherches.
Au moment où on se parle, quelle est la situation à Liège et peut-être un petit peu plus globalement sur le reste de la Belgique, mais déjà en ce qui concerne Liège?
Alors je dirais qu'à Liège, c'est d'abord un sentiment de soulagement parce que la ville a failli être inondée complètement. Ça s'est joué à 15 ou 20 centimètres. La Meuse, qui est le fleuve qui traverse la ville, a failli sortir de son lit. Les quartiers historiques du centre avaient d'ailleurs été évacués. Et donc tout le monde est soulagé que la ville n'ait pas été complètement inondée. Et puis c'est aussi la désolation en voyant les très très nombreux dégâts, à la fois dans la ville elle-même, mais surtout dans les communes avoisinantes et tous ces gens qui ont tout perdu pour certains.
Vous dites que, évidemment, vous connaissez bien la ville, c'est votre ville. Est-ce que de mémoire d'homme, vous avez déjà vu ça ?
Non, les dernières inondations aussi catastrophiques remontent à 1926 dans la ville de Liège. Et c'est la première fois, à ma connaissance, que la ville est évacuée pour une raison de catastrophe naturelle.
Alors, il y a évidemment le phénomène météo. Est-ce que il ne s'agit que d'un phénomène météo ? On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que là, cette partie du nord de l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, ont eu à affronter un phénomène météo. On appelle ça la goutte d'eau, mais tout à fait exceptionnel. Hein.
Tout à fait exceptionnel, à la fois par son intensité, mais aussi par la zone géographique couverte. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du bassin hydrologique qui a vraiment été complètement noyé sous eau, et les sols n'ont pas pu absorber ces précipitations intenses. Et évidemment, en dehors du phénomène météo, il faut rajouter les conséquences du changement climatique qui va rendre ce type de phénomène de plus en plus fréquent et de plus en plus violent. Et donc, il y a là, je dirais, la conjonction de plusieurs facteurs auxquels il faut évidemment ajouter le fait que nous ne sommes pas du tout adaptés en Europe occidentale à faire face à ce type d'événements extrêmes et qu'il y avait véritablement une grande impréparation à la fois des autorités et de la population qui ont été pris par surprise dans ces inondations.
C'est un point que nous allons éclaircir ensemble, François Gemène. Je me souviens qu'au début des années 80, les premiers rapports des climatologues faisaient état justement de catastrophes qui ressemblent à celles que l'on vit aujourd'hui, mais à l'époque... Bien sûr, on ne va pas dire que les politiques l'avaient balayé d'un revers de la manche, mais c'est vrai qu'avec le recul, on se dit qu'il ne s'était pas tant trompé que ça, voire même peut-être qu'il ne s'était pas trompé du tout. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Absolument, et c'est quelque chose qui est annoncé dans les rapports du GIEC depuis 20 ou 30 ans, et malheureusement, chaque semaine, chaque mois qui passe confirme empiriquement les projections qui étaient faites dans les rapports de l'époque. Et bien entendu, nous aurions été les premiers à souhaiter nous tromper, mais malheureusement, la réalité nous donne raison chaque jour quant à ces projections. Ce qui est dramatique, c'est que on n'a pas suffisamment tenu compte de ces prévisions, on n'a pas suffisamment tenu compte de ces avertissements et on a sous-investi dans le domaine de l'adaptation et dans le domaine de la prévention des risques naturels. Quand on discute des risques liés au changement climatique, trop souvent on imagine que ce sont des impacts qui vont se produire dans des futurs lointains ou dans des contrées lointaines. Et cet épisode d'inondation, comme le dôme de chaleur il y a quelques semaines au Canada, nous rappelle que nous serons également touchés par ces impacts dans l'espace de nos vies. Et donc il faut complètement arrêter de se dire qu'on va lutter contre le changement climatique uniquement en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, même si ça reste évidemment essentiel, il faut aussi déployer maintenant des moyens d'adaptation. Il faut accepter que nous avons transformé le climat de façon irréversible et que ces événements exceptionnels, eh bien, ils deviennent la nouvelle normalité.
François Gémen, vous venez de dire à l'instant phénomène irréversible, c'est-à-dire que c'est trop tard, vous entendez déjà, je ne vais pas parler des climato-sceptiques, mais les gens qui vont dire, vont vous dire, bon, bah, finalement, après moi le déluge, perdu pour perdu, continuons.
Il ne s'agit pas du tout d'être fataliste, mais d'accepter le fait que l'accident, en quelque sorte, la sortie de route en matière de changement climatique, elle a déjà eu lieu dans les années 50 et 60. Et qu'aujourd'hui, l'objectif, ce n'est plus d'éviter la sortie de route, c'est de limiter le nombre de tonneaux que va faire la voiture. Et donc, il ne faut pas être fataliste là-dessus. Si la voiture fait 1 ou 2 tonneaux, ou si elle en fait 10 ou 12, ça change tout pour l'occupant de la voiture. Et donc, ce que je crois qu'il faut réaliser, c'est évidemment un processus difficile, c'est faire notre deuil de l'espoir que la situation va revenir comme avant. Faire le deuil de l'espoir d'un retour à la normale. La température ne va pas baisser. Le niveau des océans ne va pas baisser. Il n'y aura pas de vaccin contre le changement climatique. Nous avons transformé, déréglé le climat irréversiblement. Il faut s'adapter à cette nouvelle situation tout en essayant d'en limiter les impacts au maximum.
On se souvient d'ailleurs d'épisodes tragiques en France. Il y a eu la vallée de la Roya qui a été inondée il y a 2 ans. Il y a eu évidemment la tempête Katrina et j'en passe. Ce qui surprend François Gémen, c'est que ces épisodes sont non seulement fréquents, mais surtout de plus en plus rapprochés.
Absolument, de plus en plus rapprochés et de plus en plus violents. Et il faut absolument que nous connections ces épisodes les uns aux autres. On a volontiers tendance à les considérer encore comme des épisodes exceptionnels et isolés, alors qu'en réalité, ils sont reliés les uns aux autres. Les chaleurs intenses et les précipitations intenses, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et quelque part, nous allons aller de plus en plus vers une alternance de ces deux phénomènes dans différentes régions. Et donc vraiment, il faut considérer ces phénomènes dans la durée et considérer le fait que ce ne sont plus des phénomènes exceptionnels, que c'est aujourd'hui une nouvelle normalité, comme je le disais.
François Gémen, vous parliez tout à l'heure d'adaptation. Est-ce que les politiques, et depuis des années, n'ont pas une part de responsabilité dans l'action ou dans l'inaction? Est-ce qu'il ne faut pas voir dans la bétonisation des sols, dans l'artificialisation des sols aussi, à une aggravation de ces catastrophes lorsqu'elles se produisent?
Absolument. Si le bilan est aujourd'hui aussi catastrophique, tant en Allemagne qu'en Belgique, c'est aussi à cause de l'étalement urbain. C'est aussi à cause de permis de construire délivrés dans des zones inondables. C'est à cause de l'artificialisation et de la bétonisation des sols qui n'étaient plus capables d'absorber cet excès de précipitations. Et vraiment, nous sommes encore dans un schéma de pensée où nous pensons que les impacts du changement climatique, ça va être pour les autres plutôt que pour nous. Nous regardons encore les impacts du changement climatique comme nous regardions le coronavirus au début quand il était encore en Chine, comme quelque chose qui ne nous toucherait pas. On a vu avec le coronavirus à quel point c'était une erreur dramatique. Nous sommes en train de commettre la même erreur pour les impacts du changement climatique.
On l'a vu notamment pour la France, hein, dans le sud-ouest, avec la tempête Xynthia. À chaque fois, effectivement, on a des lendemains de drames où on n'explique plus jamais ça. Et pourtant, cela se reproduit. Comment expliquez-vous, François Gémen, une telle inertie de la part des pouvoirs publics?
Parce que l'attention du public est volage. C'est-à-dire que, et vous le savez bien en tant que journaliste, un sujet chasse l'autre dans l'actualité. Et là, je crains que nous allons être encore dans une situation où on va se dire « attendons avant de tirer les leçons, ne pointons pas du doigt certains manquements, on est encore dans l'urgence ». Et puis un autre sujet va arriver dans l'actualité. Et puis les gens vont partir en vacances. Et lorsqu'on arrivera à la rentrée, on aura, je ne vais pas dire oublier ces inondations, mais on les aura considérées comme un événement exceptionnel et isolé qui n'a plus vocation à se reproduire, alors que ces événements ont vocation à se reproduire et à être de plus en plus violents, d'où l'importance d'en tirer des leçons le plus rapidement possible.
François Gémen, l'Europe veut la fin des voitures thermiques en 2035. Il y a le pacte vert qu'elle souhaite adopter et faire adopter. Est-ce que cela vous semble suffisant? Est-ce que ça vous semble pertinent?
Ça me semble certainement pertinent, mais pas suffisant. Je dirais que c'est un pas dans la bonne direction. Mais notre attention est encore exclusivement concentrée sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, qui reste évidemment essentielle, mais qui n'est pas suffisante. Le plan de relance européen ne prévoit pas suffisamment de moyens pour l'adaptation de nos territoires aux impacts du changement climatique. Et je dirais, au-delà, ne prévoit pas suffisamment de coopération avec les pays du Sud. Or, la lutte contre le changement climatique, elle ne va pas uniquement se jouer à Bruxelles, à Washington ou à Pékin, mais elle va aussi se jouer à Bogota, à Delhi, au Caire ou à Téhéran, c'est-à-dire dans des pays dont nous ne savons à peu près rien des politiques climatiques, et parfois des pays qui auraient beaucoup de choses à nous enseigner en termes de prévention des risques naturels. Le Bangladesh, par exemple, a mis en place un ministère des risques et des catastrophes naturelles il y a plusieurs dizaines d'années déjà. C'est sans doute ce type de mécanisme qu'il faudrait aussi développer dans nos pays européens.
Merci François Gemène pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre avec du GIEC, chercheur à l'Université de Liège et spécialiste des flux migratoires. Merci François Gemène. Dans un instant, le journal de 13h.